Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopée en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes.
Bonjour, nous sommes en direct cet après-midi au salon de la mer XXL dans le stand de Réseau Canopée. Nous allons parler de la mer donc, mais d'art et de culture également. Est-ce un levier pour l'éducation? Alors j'accueille avec nous la Cité de la Voile Éric Tabarly de Lorient, le fonds de dotation 1618, ainsi qu'un artiste. Et nous allons donc évoquer ces questions ensemble. Je vais commencer tout de suite. Marie-Claude Tressé, vous êtes responsable pédagogique de la Cité de la Voile Éric Tabarly de Lorient. Vous avez une base sous-marine. Comment
on est sur une base, on a deux équipements en fait. La CELOR, qui est une société d'économie mixte, gère deux équipements muséographiques sur ce site très chargé d'histoire, donc la Cité de la Voile et le sous-marin Flore. Ce périmètre en fait de la base de sous-marin qu'on appelle aujourd'hui Lorient la base, donc est très connu pour avoir été un endroit phare de la dernière guerre mondiale, avec des blocos très apparents, très austères. Et aujourd'hui, il y a une volonté donc de reconvertir cette base en lieu du nautisme et en lieu culturel, dont bien sûr sur lequel on s'appuie pour innover et pour éduquer les enfants, en particulier à la mer.
Oui, c'est plus qu'un patrimoine, c'est véritablement l'identité d'un territoire.
Ouais, c'est une identité très très forte. C'est vrai qu'on en parlait entre nous sur le Havre et Brest, on retrouve un petit peu ce sentiment-là que jusqu'au siècle dernier, on était un peu dos à la mer. La mer, c'était quand même beaucoup les métiers durs, la mer dangereuse, une appréhension. Et aujourd'hui, on le sent avec cette recherche scientifique, cette innovation, ce tourisme maritime et la course au large qui est de plus en plus médiatisée. On change complètement de regard, ça attire beaucoup plus, et le côté pluridisciplinaire, vraiment cette découverte de l'océan justement sur l'art, la science, ce croisement des matières nous permet de faire de nombreuses choses intéressantes.
Et les jeunes, ça les intéresse?
Ah bah c'est souvent ils savent pas trop, ils sont très surpris de ce qu'ils trouvent. Alors à la Cité de la Voile, ils sont peut-être un peu moins surpris parce qu'ils voient beaucoup dans les médias les grands skippers. Mais alors là, c'est souvent les enseignants qui sont très surpris de la manière dont on peut aborder les thèmes. Ils se rendent compte, par exemple, que sur un tour du monde à la voile, on peut travailler les sciences, tout ce qui est géographie, histoire, les arts, les carnets de bord, la littérature maritime, les peintres de marine, des choses aussi beaucoup plus contemporaines. Le sous-marin Flore, on est plus chargé d'histoire, bien entendu. Mais je prends l'exemple de l'année dernière sur l'exposition Razzle Dazzle. C'est une exposition qui avait eu lieu aussi à Brest, qui est finalement une technique graphique qui était utilisée pendant la guerre pour dissimuler ou pour faire diversion, pour ne pas voir les bateaux sur l'eau. Ça a été repris comme un courant artistique, et une artiste qu'on a fait venir, qui s'appelle Elsa Tomkowiak, a habillé ce sous-marin à la manière d'un Razzle Dazzle. On a travaillé avec les ZAB sur le sujet. On a de nombreuses expositions culturelles, donc parfois aussi, comme le sous-marin devient, alors que c'était un lieu, un engin militaire, armé, en fait devient lui-même un espace culturel. Ça, c'est aussi une vision contemporaine intéressante.
Gérard Leroy, vous êtes artiste, ça vous inspire ces propositions à Lorient?
En fait, je ne connais pas tellement Lorient.
Mais cette idée d'utiliser à la fois l'océan et là la base sous-marine pour aussi approcher une dimension artistique.
Ça s'intègre mieux dans le concept moderne. Maintenant, moi, j'ai peut-être un mental plus archaïque, plus traditionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois la mer comme une immensité d'aventure, de conquête, plus comme on l'a considérée en fait, depuis l'origine.
Oui, c'est plutôt la dimension mythologique de la mer.
Mythologie, conquérante, héroïque, mystérieuse. Tous les mythes liés à la mer, aussi bien l'île mystérieuse du capitaine Nemo de Jules Verne que l'Atlantide, que les grands mythes grecs, en fait, qui reprennent un peu les fondamentaux. Maintenant, dans le monde moderne, on a créé beaucoup de formes de dichotomie aussi. Alors, on essaye peut-être de réunir un peu ce qu'on appelle des disciplines,
Oui, le terme est toujours ambigu, voilà. Nous sommes d'accord.
On a spécialisé dans le concept moderne énormément de choses. Du coup, on a opéré un tas de divisions, souvent artificielles. Et l'art permet aussi de rassembler un peu tous ces univers qui ont été différenciés, distanciés, et au point que même ils ont fini par s'annuler ou se combattre les uns les autres. Et l'art permet aussi de se retrouver dans l'essentiel. Et pour moi, l'art est au fondement de la civilisation. Et il n'y a pas de dichotomie non plus entre la nature et l'art. Je pense que l'art procède de la nature comme la nature procède de l'art, je dirais même, dès même sa créativité ou son aspect démiurgique, en fait, on pourrait dire.
Et vous, votre matière, c'est quoi ?
Moi, j'en ai plusieurs, puisque j'écris. Donc, il y a la poésie, il y a les essais, il y a aussi bien la photographie, le dessin, la sculpture et la peinture.
Et vous inspirez de la mer, de l'océan ?
Pas seulement. Pas seulement. C'est une des manifestations principales de la nature. Et j'ai l'habitude de dire que l'art, c'est la nature qui prend conscience de son style, en quelque sorte. Donc il y a une pensée qui crée le monde, qui est déjà, pour moi, de nature artistique. Ça rejoint peut-être plus la philosophie des hindous, mais il n'y a pas de dichotomie, comme on a opéré souvent, même en art contemporain, entre un monde du concept qui s'opposerait à un monde de la nature ou de la figure. Pour moi, la figure est dans l'abstrait, et l'abstrait est dans la figure, en fait. Tout est dans tout. Et j'ai commencé très très tôt, comme l'enfant naturellement est artiste. Je veux dire, il modèle, il peint, il écrit. Enseigner l'art permet de permettre aux gens de retrouver ses fondamentaux et de réunir un peu tout ce qu'ils ont différencié ou ce que la vie va les amener à disjoindre, en fait, pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Voilà, l'art est lié à l'harmonie, comme la nature est liée à l'harmonie. Je ne sais pas ce que le scientifique pense par rapport à cette notion d'harmonie dynamique ou de dynamisme harmonieux qu'on trouve même dans les formes, même dans les coquillages, par exemple.
Monsieur François Frey, vous menez un programme scientifique Esprit de Vélox à La Rochelle. Donc on descend au sud, le long de l'océan Atlantique.
Avec une base sous-marine aussi, au passage.
Oui, effectivement. Il y en a également une à Bordeaux. Ouais, ouais. Effectivement, Art et Sciences, ça vous parle ?
Ça nous parle énormément parce qu'en fait, on a plusieurs points qui font qu'il était important de remettre ensemble, on va dire, le monde scientifique et le monde artistique, sans entrer dans des histoires de chapelle ou quoi que ce soit, hein, mais globalement de les réinventer ensemble parce qu'il y a un monde qui est en métamorphose très très forte en ce moment. Qui a à se réinventer, à inventer de nouveaux équilibres très vite. Et on est plutôt dans des choses on est plutôt dans des enjeux que le monde artistique va prendre à bras le corps de manière assez simple, quand le monde scientifique ou le monde de l'ingénierie va avoir un sentiment de vide vis-à-vis duquel il est en général assez peu à l'aise. Donc il y a ce premier point-là qui pour nous est important, c'est que les artistes sont consciemment ou pas, des gens qui ont fait le choix et qui assument après, pendant une vie entière, de vivre hors de la zone de confort, en fait. Alors que le monde industriel, le monde de l'ingénierie, qui sont consubstantiels du type de projet qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on parle de green chip, on parle de ces énergies vertes, de production indépendante, etc., mais on parle aussi d'une innovation qui doit aller vite, et cette innovation qui va très vite, elle va être plus simple à être réappropriée par le monde artistique, qui lui va avoir effectivement moins de peur. Et donc on part du principe que le fait de les embarquer ensemble, c'est aussi apporter pas une assurance aux scientifiques et aux ingénieurs, mais de leur dire qu'on peut vivre sans savoir ce qu'on va trouver demain matin. Ce qui, en général, n'est pas ce qu'on a mis dans la tête des scientifiques et des ingénieurs à qui, depuis un siècle et demi ou deux siècles, on demande de rendre des comptes, on demande de savoir, en fait, avant qu'ils se mettent en marche, ce qu'ils vont trouver. Ce qui est à des années-lumière de ce qu'un artiste va faire, en fait. Donc c'est aussi, c'est autant apporter une image extérieure sur la production scientifique du bord, parce que ça c'est aussi un point important. Et c'est vrai que les artistes parlent de cœur à cœur, donc arrivent à produire une information qui, au-delà des codes attendus, on parle de pédagogie, mais on parle aussi de rendu scientifique un peu institutionnel. Les artistes vont travailler hors de ces codes-là et vont permettre que les informations transitent plus vite, plus fort. Si on parle de marée noire, les premières choses qu'on a en tête, ce ne sont pas les impacts quantifiés, ce sont les images qu'on a vues. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que les artistes vont aussi apporter un poids à la production scientifique elle-même. Mais je dirais, au-delà de ça, ils peuvent aussi apporter aux scientifiques qui sont embarqués le fait de se réapproprier le vivant autrement et de se réapproprier leurs propres interrogations autrement.
Les artistes, les médiateurs de la science.
Exactement. Exactement, parce que aujourd'hui, mais un peu comme pour le monde artistique, il nous est important de remettre ensemble des mondes scientifiques qui ne cohabitent pas ensemble, qui sont les sciences dures avec les sciences humaines, entre autres, et embarquer ce monde-là ensemble sur un temps relativement long qui est assez proche des programmes spatiaux, en fait, dans un vrai isolement qui est très important aussi. C'est un enjeu très fort qui fait que la vision artistique peut aussi aider à créer du lien et à prendre acte du fait que ce qui peut être interprété comme une problématique est juste un bout du chemin de la vie. Donc arriver aussi à dédramatiser ce que des événements comme les scientifiques ou les ingénieurs vont vivre comme étant traumatiques, parce que en fait ils sont hors de la feuille de route initiale.
Marie-Claude Tressé, je vous vois réagir.
Oui, ce que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'effectivement l'art va apporter cette dimension émotionnelle que n'a pas de prime abord les sciences, sauf pour quelques personnes. Je vois là, c'est les enfants qu'on accueille, leur permettre cette porte d'entrée artistique. Ils sont d'abord émerveillés.
Voilà.
Impactant émotionnellement, ils vont être touchés et c'est vrai que ça va leur donner envie d'aller plus loin et d'aller comprendre peut-être plus les sciences dures et de s'intéresser, alors que si on avait commencé plus par la difficulté, peut-être on aurait arrêté là, on n'aurait pas été plus loin. Et cette dimension beaucoup plus large que donne l'art aux sciences dures, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important aujourd'hui. Et en me promenant là dans le salon XXL, je voyais tous les travaux qui ont été faits autour des planctons. C'est vraiment très, très intéressant de voir comme c'est magnifique le plancton. Et je suis sûre qu'il y a 50 ans, on n'avait pas cette vision-là. Les diatomées, tout ce qui est fait, même avec Aponscorf, là, avec le verrier. Et ça, on voit les gamins. Ah bon, c'est comme ça, c'est magnifique, c'est très beau. Et après, on va un peu plus loin, on explique ce qu'est le zooplancton, le phytoplancton. Donc j'aime bien cette idée-là.
Je pense qu'il y avait une dimension admirative forte à l'origine chez les scientifiques, comme chez les artistes, comme chez les philosophes, comme chez l'ensemble en fait, des gens qui...
Les naturalistes, les carnétistes.
Les grands marins, ouais. Que ce soit La Pérouse, que ce soit James Cook, même Christophe Colomb, Magellan. C'est l'admiration tout au départ.
Et souvent, les artistes étaient des biologistes ou, je crois que, mais eux...
Jusqu'à Éric Tabarly, même, on pourrait dire.
Ouais.
Et Monsieur Leroy, par rapport à l'écriture et aux enfants, la mère, comment...
Plus l'écriture, pas nécessairement les enfants, parce que moi, j'ai beaucoup enseigné l'art aussi à des adultes.
D'accord.
Sous forme d'enseignement du croquis et du dessin d'après modèle vivant, essentiellement. Mais moi j'ai commencé en fait à pratiquer simultanément l'ensemble de ces arts là, y compris la photographie, le dessin, la poésie et le modelage. J'avais 12 ans et donc j'étais moi-même encore un enfant et j'ai toujours continué. Après j'ai décidé de ma vocation, vaille que vaille, y compris en opposition avec la famille, à l'âge de 17 ans. Et après j'ai cultivé les différents arts, ça s'est enchaîné naturellement et chaque art a rejailli sur chaque autre art. Mais chaque forme de connaissance, en fait, se lie ou est liée même à l'art. Hein.
Mais la notion de transmission est au centre.
Transmission est importante, effectivement. Mais au sens large, au sens même des Grecs antiques, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la païdéia. Ce n'est pas seulement la transmission de connaissances, mais c'était par la connaissance, la valorisation à la fois du sens et de l'éthique, l'éthique compris, par le culte du caractère que manifestent d'ailleurs les marins eux-mêmes, ou les grands marins, ou les grands navigateurs. C'est-à-dire que l'idéal et le caractère ne sont pas disjoints non plus. Ce que je remarque dans le monde moderne, souvent, c'est cette dichotomie qui a été opérée entre tout, ce besoin de tout catégoriser, de tout opposer, alors qu'en fait, la totalité est contenue en tout.
Et c'est vrai qu'à partir de l'océan, on peut parler de beaucoup de sujets. Dans votre programme scientifique, tout à l'heure, vous avez beaucoup évoqué, justement, parler de catégorisation, vous parlez des sciences dures, des sciences humaines. Vous avez un projet à nous raconter, à nous évoquer, justement, de cette rencontre
Alors, le premier tour de l'Atlantique, qui est prévu à horizon de 2022, par exemple, va travailler sur les grands animaux qui vont très profond, les baleines à bec, entre autres, qui sont des mammifères de 8 à 10 mètres à peu près, que les scientifiques qualifient de très timides, ce qui veut dire en fait qu'ils ont peur des impacts liés au bruit. Et le monde de la mer est un monde qui transmet les bruits très fort et très loin. Et on sait par expérience que ces baleines à bec, quand elles vont entendre un bruit qui n'est pas lié à l'écosystème, donc il y a un bruit de production humaine, classiquement, ils vont prendre la poudre d'escampette. Et en même temps, ce sont des animaux qui ont une forme de physiologie qui est relativement proche de la nôtre, qui sont en mer nos frères de risque environnementaux et biologiques. C'est-à-dire qu'ils sont ils ont à vivre avec les mêmes impacts sur le climat et les mêmes impacts sur la biodiversité que nous à terre, en fait. Donc ils sont intéressants aussi pour ça. Et puis, si on prend ce fil-là, on va après... Donc là, c'est plutôt avec des biologistes, avec des acousticiens qu'on va travailler. C'est avec des spécialistes de géographie humaine, parce que dès qu'on parle de baleines, il y a aussi des formes de systèmes humains qui vont avec ça. Ce sont les Basques qui, à partir du 13e, 14e siècle, vont expérimenter cette chasse de manière progressivement industrielle. Donc ça marque aussi le territoire autour de l'Atlantique Nord. Et puis si on tire le fil, on se rend compte que ce sont des animaux que l'on va retrouver aux quatre coins de l'Atlantique, dans des zones chaudes, dans des zones plus froides, dans des types de sites qui sont très très proches, en fait, en termes de géosciences. Donc là, on se raccroche avec des sciences un peu plus dures qui sont de la biologie, mais aussi des géosciences pour aller travailler sur des fonds relativement importants, sur des falaises importantes en mer aussi, et qui font que petit à petit on va sur la base de juste ces animaux-là et sur cet écosystème atlantique, on va se retrouver à travailler pendant une centaine de jours en mer avec 8 ou 10 spécialités, au sens académique du terme, qui vont être impliquées et qui vont travailler ensemble, alors que jusqu'à présent, ils travaillaient les uns séparément des autres, soit sur les sites, soit sur les animaux, soit sur des éléments de la pyramide alimentaire, sans lien entre eux, en fait. Et le fait de les faire travailler ensemble et de les faire travailler avec cette espèce de fil rouge, c'est aussi très intéressant parce que ça les fait travailler plus vite. Les spécialités, les compétences des uns et des autres vont se nourrir de façon croisée. Et là, on est 3 ans avant et on commence à les faire travailler sur des choses qu'ils auraient pu prévoir de travailler s'ils avaient été en mer seuls, et sur des choses qu'ils attendent du fait de se retrouver en communauté. Et là, effectivement, on démultiplie le champ de connaissances de façon assez simple, et aussi le rythme, je dirais, auquel on peut se réapproprier cet environnement. Et on a un vrai problème de rythme aujourd'hui.
Mais la question de la méthode dans la recherche, elle rapproche, elle est forcément...
Alors elle rapproche ou elle éloigne, hein, pour le coup. Ouais. Parce que dès qu'on va mettre des artistes et des gens de sciences humaines... Alors, c'est pas les artistes qui vont être les plus problématiques. Parce que eux, encore une fois, eux, le cadre, ils vont le faire à chaque fois. Mais c'est plutôt, par exemple, faire travailler en même temps des gens de sciences humaines avec des gens de sciences dures. C'est faire embarquer des gens de sciences humaines. Faire embarquer des spécialistes de géographie humaine depuis les grandes expéditions du XVIIIe siècle, ça ne s'est plus fait. Donc ce sont des gens, même quand on va vers eux et quand on leur dit, tiens, on vous propose de... Ils nous disent, ouais, c'est super intéressant. Et puis au bout d'une demi-heure, ils disent, mais il faut embarquer, c'est ça ? Oui,
vous êtes en train de nous dire qu'ils ne vont plus sur le terrain, que des géographes seraient géographes sans aller sur le terrain.
Les géographes qui travaillent en géographie humaine vont sur le terrain humain, mais peut-être moins celui de la géographie aujourd'hui.
Bon, nous n'avons pas de géographe à la table.
Mais on pourra faire ça avec eux.
En fait, au travers de vous deux, on a aussi deux, sans vouloir faire de dichotomie à mon tour, mais deux types de mer. On a la mer en surface. On pourrait dire la mer immense à traverser, celle même des pionniers, des conquérants, et en même temps dramaturgique des tempêtes, de la voile, des vents. Et puis la mer intérieure, sous l'océan, la mer sous-marine, qui est porceuse à la fois de beauté et à la fois de mystère, et de tragédie, de grands mythes, comme le mythe de l'Atlantide, des terres qui disparaissent et se retrouvent plongées dans la mer, qu'on retrouve aussi dans un milieu sous les mers. Et ce conflit entre le monde du sous-marin, notamment au travers de 20 milieux sous les mers, entre le sous-marin et le monde de la surface, des hommes et des pêcheurs, et puis le monde du sous-marin, Nautilus.
C'est effectivement un conflit large entre le monde visible et invisible, et l'homme met une frontière très, 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 très forte là.
Et il y a un troisième monde qu'on n'a pas abordé, moi que j'ai abordé un peu dans mon sujet principal, c'est celui de l'île. De l'île comme refuge, comme destinée, comme destination, à la fois de l'île on rêve, et quand on est sur un bateau, on rêvait souvent de l'île, ou pas, parce que l'île, ça pouvait être à la fois l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Donc on la rêve aujourd'hui comme l'île du paradis, parce qu'en fait, suite à un naufrage, on peut reconstruire, réenchanter son monde. C'est le cas de Robinson Crusoe, par exemple, qui reconstruit à partir de cette plongée hors de lui, qui n'a pas choisi et qui est obligé de refaire, de reconstruire, rebâtir une vie, ou celle des plus harmonieuses, des Robinson suisses en famille, qui vont recréer un monde, une société dans une île rêvée. Mais c'était aussi l'île des cannibales, l'île de la malédiction, l'île tentatrice aussi. Il y a beaucoup d'îles tentatrices aussi chez Homère, notamment dans l'Odyssée. Donc c'est aussi l'île de Circé, l'île des sorcières, des mystères, celle des sirènes qui conduisent en fait les marins vers les récifs.
Ça me fait penser à hier dans une table ronde chez Canopée, il y avait aussi l'inspecteur général de l'éducation nationale qui terminait en disant l'océan c'est le champ des possibles.
Oui.
Et ça me fait tout à fait penser à ça. Je crois que c'est ça qui le point d'orgue un peu de tous nos métiers et cette transformation. Pluridisciplinarité, enfin, c'est vraiment le champ des possibles et autant c'est le passé, le présent, le futur, on voit des notions très environnementales, très scientifiques.
J'allais rebondir parce qu'effectivement vous montrez combien la mer est inspirante à travers les temps, et justement cette notion de développement durable aujourd'hui c'est aussi ça qui ressort quand on parle de l'océan.
Et justement dans Art et Science, ces cultures maritimes, c'est très important parce que, encore une fois, ça va être une porte d'entrée. L'environnement, c'est transversal. L'environnement, ça va être autant les sciences dures que ça va être aussi une partie très historique, très géographique pour comprendre les choses. Et ça a une dimension artistique. Je prenais l'exemple du plancton, mais il y a énormément d'exemples possibles. Et on le voit même dans l'histoire, à travers les carnets de voyage, c'était déjà là, hein, cette étude de la biodiversité. Et du coup, c'est aussi par ce biais-là qu'on prend la dimension, scientifique, très importante de notre vie et du changement qu'il faut s'imposer.
Et on rencontre aussi, notamment chez Jules Verne, ce paradoxe du progrès jusqu'à arriver à l'angoisse scientifique d'aujourd'hui. Pendant des siècles, on a rêvé du progrès, en croyant, un peu comme chez La Pérouse, qui reprenait le mythe du progrès du siècle des Lumières, qui s'est aperçu que le bon sauvage, enfin, il s'en est aperçu très tard, allait finir par le cannibaliser. Et il y a aussi cette dimension de la science aujourd'hui qui tendrait à vouloir préserver. Je veux dire, on a passé des siècles et des siècles à conquérir, et maintenant, en fait, on a été tellement loin qu'on s'est rendu compte qu'on créait aussi de la destruction malgré soi, alors qu'il y avait un projet initial qui était un projet optimiste. Mon père était ingénieur, par exemple, plutôt scientifique, donc lui-même, il a participé à ces années, on pourrait dire encore optimistes, les dernières années ou dernières décades optimistes, qui pensaient qu'ils allaient aider le monde à devenir meilleur. Il y avait ce projet-là chez les ingénieurs, notamment, ou chez les scientifiques, et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple de rendre le monde meilleur.
Et ça me fait penser justement, question, enfin, c'est peut-être à vous, le scientifique, je prends conscience là que jusqu'à aujourd'hui, la science, elle faisait progresser et souvent elle était utilisée dans un développement qui a abouti à la situation actuelle qu'on connaît. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la science, elle aide à réparer un petit peu tout ça.
Alors, on est sur... Alors, ce que j'ai entendu là, j'ai plusieurs pistes de réaction. La première, effectivement, c'est sur cette idée de l'île et de ce qui est environnemental, emprise, empreinte, etc. Une spécificité forte du programme sur lequel on bosse, c'est une vraie autonomie énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on va être un plateau sans émission carbone, alors qu'on va avoir une capacité de travail en phase avec les plus grandes exigences de la flotte océanographique hauturière au monde. Donc ça a impliqué une vision de l'ingénierie qui est celle de l'île autonome, en fait. On est une île.
Ah oui,
avec un truc un peu particulier.
On retrouve chez Jules Verne, d'ailleurs,
voilà.
Plusieurs fois.
Avec un truc un peu particulier, c'est que c'est une île qui se bouge et qui, évoluant, doit arriver à être autonome d'un point de vue énergétique dans des climats aussi éloignés que ceux du pôle et que ceux des tropiques. Donc ça implique des exigences en termes de technologie qui sont assez intéressantes. Après, le parti pris qui est le nôtre, c'est effectivement se réapproprier le monde sans impact environnemental, donc en faisant corps avec ce que les écosystèmes sont aujourd'hui et auxquels on est intégré, qu'on le veuille ou non.
Se réconciliant avec la nature.
Se réconciliant, je ne sais pas, parce que je crois que c'est une affaire très individuelle, en tout cas. Mais en tout cas, en reprenant une place qui est celle de l'une des espèces, et ni plus, mais ni moins. Donc ça veut dire aussi faire un peu le pari que plutôt les ethnologues ont fait au XXe siècle, et de dire qu'il y a un moment, on ne peut plus arriver à disjoindre les objets des sujets eux-mêmes, et donc prendre le risque de s'immerger de manière invisible et de dire... Ok, je vais faire des formes de mesure du monde dans lequel on va évoluer.
De redonner de la sagesse à l'humanisme, en quelque sorte.
Alors là, c'est pour ça que aussi on espère que des philosophes des sciences vont être en mesure de pouvoir accompagner les missions qui seront les nôtres. Parce que c'est très important aussi que le monde scientifique puisse un peu en temps réel, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, très peu, mettre en perspective le travail qui est fait avec le résultat attendu. Et là, il y a aussi un champ qui est très intéressant.
Donc, en conclusion, la mer, c'est un levier pour l'éducation parce que ça peut rassembler à la fois des questions scientifiques, des questions artistiques, qu'on parle... à travers l'histoire, qu'on peut se projeter. C'est en ce sens que la mer peut aussi être un levier pour l'éducation.
Oui, puis je pense qu'on n'en a pas parlé, ça sera encore un autre sujet, mais moi je pense aussi à c'est aussi au service de l'inclusion. On parle beaucoup de handicap, de publics empêchés. La mer, c'est aussi formidable pour ces publics-là. Nous, on le voit, les gamins handicapés, malvoyants, autistes, quand ils viennent sur un bateau, quand on a la chance de les faire aller sur un bateau ou de voir, de faire un film d'animation sur la mer, ils ont vraiment les yeux qui pétillent, le regard qui s'ouvre. Et ça, c'est notre humanité. Enfin, ça fait partie de notre vie au quotidien. Et ça rassemble justement tout ce champ des possibles, que ce soit l'art, la science. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de... Justement, les étiquettes sautent. Et ça, c'est notre bien commun à tous. Et ça, ils en ont profondément conscience.
On est des gouttes océaniques. On est à 70% de l'eau, on a des pattes. On n'y vit plus. Et on n'est plus chez nous quand même en mer. Hein. On a beau être des gens de mer, on a beau être fréquemment en mer, on n'est plus chez nous. Ça veut dire que qu'il y a aussi cet exercice-là de mise en abîme de notre présence même qui est plus obligatoire quand on va en mer que quand on est sur terre. Donc ça veut dire que je pense qu'il est plus évident et naturel de se reposer des questions un petit peu évidentes quand on est en mer et quand on travaille en mer que quand on est à terre. Donc effectivement, les vrais enjeux sont plus larges et plus à portée des doigts. Ouais.
Mais en fait, on dit que le fœtus vit dans une espèce de mer intérieure. La femme le ressent sûrement davantage. Mais il n'y a pas la mer, pour moi, séparée du reste de la nature. La mer, c'est un peu une image de la nature, mais la mer contient aussi bien la terre, notamment autour du travers des îles ou des fonds sous-marins, comme elle contient aussi l'air, les vents, les tempêtes, les nuages, tout est important aussi pour les marins, notamment.
Mer, hein,
voilà. Et puis, il y a le feu, même, qu'on a oublié, qui est lié au volcan et qui, d'ailleurs, participe de la tragédie du capitaine Nemo ou de l'Atlantide aussi. En fait, tous les éléments sont liés les uns aux autres, et on ne peut pas distinguer comme ça une mer qui n'aurait pas d'air, qui n'aurait pas de terre, et qui n'aurait pas de lumière, en fait.
Je vous remercie.
Merci.
Au revoir, merci.
Merci.